Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement. Jean Dalibard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours, dernier cours de la série sur les solitons. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de solitons magnétiques et d'oscillations de Bloch. Vous verrez comment ces deux notions peuvent converger. Alors, comme toujours, avant de commencer le cours proprement dit, je vous rappelle d'abord le séminaire d'aujourd'hui. Thierry Jamarqui, on aura le plaisir de l'écouter, nous parler des féoles quantiques dans des systèmes de basse dimension et fortement corrélés. Ce sera de la topologie. Et on continuera cet après-midi avec de la topologie, avec le mini-colloque que j'organise avec Sylvain Assimben, qui sera consacré donc à la matière quantique topologique avec des atomes et des photons. Vous avez dehors les résumés des conférenciers et des conférencières. Et ces conférencières et conférenciers sont indiqués ici. Laetitia Taruel de Barcelone, Jean-Noël Fuchs de Paris, Julian Schmidt de Heidelberg. Il y aura une petite pause ensuite. Sylvain Assimben et Leonardo Falani. Sylvain est de Paris et Leonardo de Florence. Voilà. Et je vous rappelle, comme toujours, que ces colloques sont libres d'entrée, sans inscription. Venez si ça vous intéresse. Voilà. Alors, je vous rappelle ce qu'on a regardé dans les précédents cours. On a regardé deux choses. On a regardé des solitons brillants et des solitons sombres. Notre plateforme, c'est l'équation de Gross-Pitalevski ou équation de Schrödinger non linéaire, que je peux réécrire au tableau, comme ça on l'aura tous en tête. L'équation de Schrödinger non linéaire. Et donc, je commence par le temps, IH bar T psi sur dt, une dérivée temporelle d'ordre 1 à gauche, et puis une dérivée seconde à droite, plus le terme non linéaire. Donc l'objet sur lequel on travaille, c'est une fonction d'onde, psi de x et de t, un objet complexe, et petit g, donc qui caractérise la force d'interaction, peut être négatif, auquel cas on est dans le cas attractif, ou positif, auquel cas on est dans le cas répulsif. Bien, alors, ce qu'on avait vu ensemble, donc, c'est que dans le premier cas, dans le cas attractif, eh bien, à ce moment-là, les particules, quand je suis dans une géométrie à une dimension, ont admis comme état fondamental un état où elles se sont agrégées. Elles ont formé ce soliton, c'est l'état fondamental du système, enfin au moins quand il est décrit par une formalisme de champ moyen comme ceci. Et ce soliton, donc au repos, c'est l'état d'énergie minimale, et ensuite ben, on peut le mettre en mouvement, c'est une simple invariance galiléenne. Je peux regarder ce soliton au repos dans un référentiel qui sera en mouvement dans un autre référentiel, et ce soliton peut se propager sans déformation. Dans le cas répulsif, le deuxième cas, G positif, à ce moment-là, l'état fondamental d'un système qui remplit, disons, toute la droite de l'axe des X, l'état fondamental, c'est une densité uniforme, et les solitons, qui sont à ce moment-là des solitons sombres, apparaissent comme des états excités du système. Un soliton sombre, c'est quoi ? Eh bien, c'est localement une déplétion, ici, de la densité, un trou de densité, si vous voulez. Donc ça, c'est, comme je dis, un état excité du système. Ce trou de densité peut être au repos, auquel cas, il faut que la fonction d'onde ici s'annule en ce point-ci, et puis il y a un saut de phase de pi entre la partie gauche et la partie droite. Et puis, il peut également être en mouvement, et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'à ce moment-là, la déplétion n'est pas totale, et cet objet, donc, on appelle un soliton gris, peut se déplacer à vitesse constante. Le soliton brillant peut se déplacer à n'importe quelle vitesse, au moins dans une approximation non relativiste, hein, il ne s'agit pas de le faire aller plus vite que la vitesse de la lumière, mais il peut se déplacer à n'importe quelle vitesse dans une physique galiléenne. En revanche, les solitons sombres, ici, doivent avoir une vitesse qui reste inférieure à la vitesse du son dans le milieu de densité ρ0. Je vous rappelle que cette vitesse du son, on l'obtient en écrivant que mc2, donc c étant la vitesse du son, égale g fois ρ0. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait vu ensemble dans les cours qui ont précédé. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, eh bien, c'est de mélanger des superfluides. Jusqu'à maintenant, on avait un seul superfluide décrit par cette fonction d'onde psi de x et de t. Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est mélanger des superfluides. Donc j'aurai deux fonctions d'onde à ma disposition, psi 1 de x et de t et psi 2 de x et de t. Et ce qu'on va avoir, eh bien, c'est deux équations de Schrödinger non linéaires couplées pour décrire ce mouvement des deux superfluides qui interagissent les uns avec les autres. Par exemple, les particules 1, donc celles que je vais dessiner en bleu dans ce cours, eh bien, elles sont sensibles au champ moyen créé par leur propre espèce, donc par la densité psi 1 carré, avec une constante que je vais noter G1,1. Et puis, l'espèce 2, la particule 1 sont également sensibles à l'espèce 2, donc proportionnelle à la densité liée à l'espèce 2, psi 2 carré, avec donc un coefficient G1,2. Et il en va de même pour les particules 2. Donc, je vais peut-être écrire des choses au tableau avant de montrer la deuxième diapositive. Ce que je vais utiliser donc comme équation de mouvement pour mon système, ça va être deux équations couplées, pour psi 1 et pour psi 2. Donc, la première, c'est IH bar d psi 1 sur dt égale moins H bar carré sur 2 fois la masse M1 des 2 psi 1 sur dx2, plus donc le terme de champ moyen qui va remplacer le G psi carré ici, qui va être la somme de G1,1 psi 1 carré plus G1,2 psi 2 carré fois psi 1. Ça, c'est l'équation pour psi 1. Et puis, celle pour psi 2, je la réécris. Hein, c'est là. J'échange simplement les indices 1 et 2. Donc, c'est un moins h bar carré sur 2m2, cette fois-ci, d2 psi 2 sur dx2, plus un terme. Donc là, maintenant, j'ai l'action des particules 2 sur... l'action des particules 1 sur une particule 2, donc psi 1 carré plus G2,2 psi 2 carré fois psi 2. Donc, on a une situation où, a priori, on a quatre coefficients, G1,1, G1,2, G2,1 et G2,2. L'énergie d'interaction dérive d'un Hamiltonien, donc à partir du moment où j'ai un Hamiltonien, j'ai un principe d'action et de la réaction qui agit, hein, comme chez Newton, la force exercée par les particules 1 sur 2 est égale à la force exercée par 2 sur 1, ce qui implique que j'ai obligatoirement G1,2 égale G2,1. Donc j'ai trois paramètres en fait à ma disposition, trois paramètres d'interaction, qui sont G1,1, G1,2 et G2,2. Et puis, dans tout ce qui va suivre, pour simplifier les notations, je vais prendre M1 égale M2. Donc, je vais supposer que mes deux espèces, en fait, sont deux sous-niveaux Zeeman d'une même espèce atomique. On pourrait, évidemment, considérer des mélanges de superfluides qui n'ont pas la même masse. Ça compliquera un petit peu les équations. Donc, moi, je vais me contenter de l'écrire comme ça. Voilà. Donc, c'est une situation qui est a priori très riche, hein, puisqu'on est passé de un paramètre d'interaction à trois. On peut se poser des questions qui vont au-delà de la géométrie à une dimension. On peut se poser des questions à 2D et à 3D. Et en particulier, le fait qu'on ait trois paramètres d'interaction comme ça fait qu'on peut trouver des situations où les fluctuations quantiques jouent un rôle important. C'est quelque chose que j'avais décrit dans le cours 21-22. Donc je ne vais pas revenir dessus en détail, mais la raison pour laquelle les fluctuations quantiques peuvent jouer un rôle important dans les mélanges, alors que la description de champ moyen marche bien pour tout ce que on a vu cette année dans un système à une composante, eh bien c'est que si j'ai trois paramètres comme ceci, je peux les choisir de signes différents. Par exemple, je peux prendre G1,1 et G2,2 positifs, mais G1,2 négatif. Et à ce moment-là, les énergies de champ moyen peuvent se compenser les unes avec les autres. Hein, j'ai une source positive d'énergie de champ moyen qui viendra de G1 et de G2,2, et puis ce qui viendra de G1,2 sera au contraire négatif. Donc je peux abaisser le rôle des énergies de champ moyen en choisissant bien à la fois mes paramètres GIJ et puis mes densités. Et du coup, si je mets l'énergie de champ moyen à zéro, et à ce moment-là, ce qui va dominer, c'est ce qui vient après le champ moyen, c'est les fluctuations quantiques. Donc quand on a affaire à des mélanges, il faut faire attention, quand on prend des paramètres GIJ avec des signes différents, on peut avoir des annulations de l'énergie de champ moyen et ensuite un rôle exacerbé des fluctuations quantiques. Alors, encore une fois, c'est quelque chose que j'avais décrit dans un cours précédent, dans un cas particulier. En particulier, on avait vu apparaître des solitons à l'époque. Là, je mets une figure que j'ai extraite d'un article du groupe de Laetitia Tarbell, qui interviendra dans le séminaire cet après-midi. C'est une transition qu'on peut voir entre donc, ces gouttelettes quantiques dominées par les fluctuations quantiques et puis des solitons brillants selon qu'on est dans une géométrie plutôt 3D ou plutôt 1D. Pour moi, dans tout ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va se limiter à des interactions qui seront répulsives, c'est-à-dire que je vais prendre les trois coefficients G et J positifs, hein, les trois qui sont écrits ici seront positifs, donc je ne vais pas avoir de risque de compensation des énergies de champ moyen, et donc les fluctuations quantiques ne vont pas jouer de rôle, enfin pas de rôle significatif. Par ailleurs, bon, comme je l'ai dit, je prends des masses identiques, les fluctuations quantiques ne jouent pas de rôle significatif. Et la question qu'on va se poser, donc, c'est est-ce que je peux, dans ce problème, générer des structures stables, des structures de type soliton stable, qui vont au-delà de ce à quoi on est habitué maintenant pour des espèces, pour des systèmes à une seule espèce. Alors, bon, je vais donner deux exemples. Une des premières questions qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que notre mélange est miscible ou non miscible ? Donc, dans le cas où le système est non miscible, eh bien, on peut imaginer ce que j'ai représenté en bas à gauche, là, c'est-à-dire un trou de densité dans l'espèce bleue, dans l'espèce 1, accompagné d'une bosse de densité dans l'espèce 2, l'ensemble est formant une structure stable qui peut se déplacer à vitesse V. Et puis, dans le cas miscible, eh bien, on peut regarder des structures où, par exemple, j'aurai deux bosses de densité à la fois dans 1 et dans 2. L'espace est rempli d'un mélange 1-2, donc mélange stable, puisque je suppose que je suis dans le cas miscible, et puis je peux imaginer une bosse dans 1 et une bosse dans 2 qui se déplacent en même temps, mais ça pourrait également être un trou dans 1 et une bosse dans 2. On peut imaginer beaucoup de choses. Voilà, alors on ne va pas faire une revue complète, mais c'est ça l'esprit. Ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il y a une analogie magnétique intéressante dans ce système. C'est-à-dire que le mélange de superfluides qu'on va considérer, en se plaçant dans le cas où tous les coefficients JJ sont voisins les uns des autres. Je ne les prends pas tous égaux, mais je les prends voisins les uns des autres. J'ai un 1, j'ai un 2, j'ai 2, 2. Eh bien, on va pouvoir montrer que, en fait, c'est un problème qui est formellement équivalent à celui d'une chaîne de moments magnétiques prise à la limite continue. Donc, cette chaîne, elle est représentée ici. J'ai des moments magnétiques qui ont tous le même module. Ils sont répartis de manière uniforme sur l'axe X, là, avec une distance petit a entre deux moments magnétiques consécutifs. Et chaque moment magnétique est donc simplement repéré par deux angles, θ et φ, son orientation dans l'espace. Et quand on regarde la dynamique de cette chaîne de moments magnétiques, eh bien, on va voir qu'en fait, c'est une dynamique qui est très, très voisine de celle que je suis capable de déduire de ces deux équations de Schrödinger couplées, de Schrödinger non linéaire couplées. Et en particulier, les solitons qui sont susceptibles d'apparaître dans le problème à deux fluides sont l'équivalent de structures bien connues en magnétisme qui sont des solitons magnétiques, d'où l'origine du titre. Voilà, donc le plan du cours est le suivant. Je vais commencer par la chaîne magnétique. Donc je vais commencer par vous expliquer comment est-ce qu'on décrit une chaîne magnétique. Je vais parler de deux situations distinctes liées à une légère anisotropie de la chaîne, qui est ce qu'on appelle axe favorisé ou plan favorisé, en anglais easy axis ou easy plane. Ensuite, on passera au cas du mélange binaire, donc celui dont j'ai écrit les équations là au tableau. On verra que ces mélanges binaires peuvent être non miscibles et miscibles. Et si j'ai mis ça juste en dessous de axe favorisé et plan favorisé, ce n'est pas par hasard, c'est qu'on verra qu'il y a une correspondance 1 à 1 entre le cas easy axis, axe favorisé et le cas non miscible, et puis le cas plan favorisé et le cas miscible. Ensuite, eh bien, on passera au soliton magnétique. Donc, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut obtenir ces structures stables solitoniques. Et une caractéristique importante des solitons magnétiques, ce sera leur relation de dispersion. On verra que la relation de dispersion qui relie l'impulsion P à l'énergie E est périodique. Et ça a des conséquences importantes, et en particulier, ça ouvre la possibilité d'observer des oscillations de blocs. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les oscillations de blocs, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai de quoi il s'agit et en quoi c'est lié à cette structure périodique. Voilà. Donc, je commence par la chaîne ferromagnétique, donc un problème qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec ce mélange de condensats. mais vous allez voir que les deux se rejoignent rapidement. Alors, cette chaîne de moments magnétiques, donc, je l'ai déjà décrite, hein, c'est ces moments magnétiques qui ont tous le même module, qui sont séparés d'une distance A les uns des autres, et je regarde donc quelles sont les énergies pertinentes pour décrire cette chaîne magnétique. Alors, donc, je considère un système 1D, c'est une approximation qui peut être bonne pour certains matériaux. J'ai donné des références dans les notes écrites. Il y a effectivement des matériaux 3D, mais dans lesquels on peut considérer que tout se passe sur des chaînes extraites du matériau, des chaînes à une dimension. Donc, ces moments magnétiques interagissent les uns avec les autres. Et je vais, dans un premier temps, regarder l'interaction qui est dominante sur ces chaînes magnétiques, qui est ce qu'on appelle l'interaction d'échange, et qui porte sur les proches voisins. Donc chaque moment magnétique μi est couplé à son voisin de gauche, μi moins 1, et son voisin de droite, μi plus 1, par une interaction que j'écris sous la forme moins grand J, somme sur I de μi, μi plus 1. Grand J, cette force des interactions, je vous rappelle son origine, c'est une origine électrostatique. Ce que je suis en train de regarder ici, ce n'est pas l'interaction dipôle-dipôle magnétique. Celle-là est faible, hein, elle ne joue quasiment pas de rôle. L'énergie grand J, c'est une énergie d'interaction d'origine électrostatique. Alors, je ne vais pas refaire un cours de magnétisme ici, mais pour le dire très vite, si vous prenez simplement deux dipôles côte à côte, chacun des dipôles fournit un électron. Et si je regarde la fonction d'onde de ces deux électrons, eh bien, je sais que comme ces deux fermions, cette fonction doit être antisymétrique. Et il y a deux moyens de faire une fonction antisymétrique. Enfin, je peux me débrouiller pour avoir deux moyens. Je peux prendre une fonction antisymétrique d'espace et symétrique de spin, ou alors une fonction symétrique d'espace et antisymétrique de spin. Et puis ensuite, quand je prends l'énergie d'interaction entre ces deux électrons, quand je prends la fonction d'onde symétrique d'espace, cette fonction d'onde autorise les deux électrons à être arbitrairement proches l'un de l'autre. Donc ça va me coûter beaucoup d'énergie électrostatique, puisque les électrons se repoussent. Donc, l'état qui est symétrique d'espace et antisymétrique de spin va avoir une énergie électrostatique grande. En revanche, l'état qui est antisymétrique d'espace et donc symétrique de spin, lui, la probabilité de que les deux électrons soient au même endroit est nulle, puisque la fonction est antisymétrique, et donc son énergie électrostatique sera nettement plus basse. Donc, je vois comme ça apparaître, de manière un peu artificielle, une interaction qui dépend du spin. Selon que j'ai une fonction d'onde de spin qui est symétrique ou antisymétrique, je n'ai pas du tout la même énergie. Mais ce n'est pas lié, encore une fois, à l'interaction magnétique entre les deux moments magnétiques, c'est lié à l'énergie électrostatique plus le principe de Pauli qui me fait cette corrélation 1 à 1 entre l'état de spin et puis l'état orbital. Voilà, donc c'était une longue périphrase pour vous expliquer que je mets ici un J qui est en μ plus 1, donc une interaction qui a l'air d'être spin-spin, mais qui vient de l'énergie électrostatique et qui est positive. Bien. Alors, si je prends un moment magnétique donné de ma chaîne, le moment magnétique μi par exemple, donc si j'extrais tout ce qui dépend de μi dans cette somme-là, en fait il y a deux termes, il y a le terme d'interaction avec le voisin de droite et celui avec le voisin de gauche, donc je peux écrire ça sous la forme moins J μi, μi moins 1 plus μi plus 1, c'est-à-dire un moins μi, ce qui a l'air un BI effectif, où le BI effectif fait donc intervenir ces deux voisins. Bien. Si je m'intéresse à l'état fondamental de cette chaîne, bien, comme J est positif, je vais minimiser mon énergie en prenant tous les μi parallèles les uns aux autres. Hein, c'est ça qui me permet d'avoir l'énergie la plus basse. La direction choisie pour ces μi, tous parallèles les uns aux autres, est quelconque. A priori, j'ai un problème qui est invariant par rotation dans l'espace vis-à-vis des moments magnétiques. Donc, si je fais une réalisation donnée de l'expérience, j'ai une brisure spontanée de symétrie et tous mes moments magnétiques se mettent dans une direction qui est a priori tirée au sort. Bien. Donc ça, c'est l'interaction dominante. La deuxième interaction qu'on voit dans les chaînes de moments magnétiques, comme ça, c'est une légère anisotropie de l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les directions ne sont pas strictement équivalentes. Et là, je vais me limiter au cas d'une anisotropie qu'on dit uniaxiale, qui tend à singulariser un axe donné, que je vais noter Z, ici. Et donc, au terme isotrope qu'on vient de voir à la diapositive précédente, vient s'ajouter un terme que je vais mettre sous la forme moins J', μi, composante Z de μi, μi fois μi plus 1, toujours à la composante Z. Et cette légère anisotropie est caractérisée par un deuxième nombre, J', et J' est très petit devant J. pour toutes les réalisations pratiques. En revanche, son signe n'est pas déterminé. J' peut être positif ou il peut être négatif. On trouve les deux dans la nature. Dans le cas où J' est choisi négatif, eh bien, quand je vais chercher à abaisser mon énergie au maximum, je vais avoir intérêt à prendre mes moments magnétiques alignés selon l'axe Z. Alors, quand je dis aligner sur l'axe Z, c'est qu'ils peuvent pointer vers le bas ou pointer vers le haut. Les deux sens sur l'axe Z sont équivalents, donnent la même énergie, mais je vais avoir, plutôt que de prendre mon moment magnétique pointant n'importe où dans l'espace, si J' est négatif, j'ai intérêt à les aligner selon l'axe Z. C'est pour ça qu'on appelle ce cas easy axis, ou si vous préférez, axe favorisé. Et puis, il y a le cas inverse, où J' est positif. À ce moment-là, ça me coûte plus d'énergie de mettre mon moment magnétique selon Z que dans le plan XY. Donc, à ce moment-là, l'aimantation va être tirée au sort quand je vais faire une réalisation, mais elle sera tirée au sort préférentiellement dans le plan XY et non pas selon l'axe Z. D'où la dénomination easy plane. Bien. Donc, ça, c'est un système discret. Hein, et donc, ce système discret, je peux donc le décrire. Donc, je recopie ce que j'ai écrit ici. Voilà, oui. Donc, je peux le décrire par des équations de la dynamique. Donc, si je regarde la dynamique d'un moment magnétique lui donné, donc ce moment magnétique, comme je l'ai dit, il voit un champ BI effectif qui est égal à J fois donc le moment magnétique, les deux moments magnétiques de gauche et de droite, mu plus 1 plus mu moins 1. Et puis j'ai aussi donc le J' qui est apparu, donc mu plus 1 Z plus mu moins 1 Z, le long du vecteur unitaire Z. Voilà. Et donc l'énergie qui va régir le mouvement de mu, c'est moins B effectif scalaire mu. Et donc, si je regarde l'équation du mouvement de ce mu, d mu sur dt, eh bien, c'est le couple qui résout de cette énergie en moins mu scalaire B. Donc, c'est le couple que j'ai noté gamma i, qui est simplement mu produit vectoriel avec ce B effectif, enfin, bi effectif. Donc, gamma i, c'est le couple, hein, qui agit sur mu. Voilà. Et puis, je vous rappelle, pour aller plus loin ici, pardon, ce n'est pas mu ici, c'est le moment cinétique, excusez-moi. Non, je suis allé un peu trop vite. L'équation du mouvement, c'est la dérivée du moment cinétique est égale au couple. Pardon, hein, ce n'est pas le moment magnétique. La dérivée du moment cinétique est égale au couple, et le couple, c'est mu fois B effectif. Mais maintenant, on a une relation entre moment cinétique que j'ai donc noté ici, c'est le spin associé au site I, relation entre moment cinétique et moment magnétique, c'est que mu, c'est gamma fois SI, où gamma, c'est ce qu'on appelle le rapport gyromagnétique, donc qui relie justement les aspects de rotation et les aspects magnétiques. Et donc, si je multiplie mon équation qui est ici, dSI sur dt égale mu vecteur LBI, si je la multiplie par gamma, donc là, je fais apparaître d mu sur dt. Et d mu sur dt, c'est donc gamma fois mu vectoriel BI effectif. Voilà, c'est là que je voulais en arriver. Voilà l'équation du mouvement d'un de mes moments magnétiques de la chaîne. Donc je couple le mu à ses voisins via cette équation du mouvement. Bien. Donc, ayant ça, c'est l'équation qui est écrite ici, on va passer à la limite continue. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une chaîne discrète, on va supposer qu'on a des moments magnétiques qui sont très proches les uns des autres, et que l'orientation du moment magnétique mu est très voisine de l'orientation de ses voisins, mu plus 1 et mu moins 1. Donc, je remplace la variable discrète mu i de t, ou le lot de variables discrètes mu i de t, par un champ mu de x et de t, sachant que mu i de t, ça correspondra à la valeur de ce champ mu de x et de t au point xi, qui est égal à i fois petit a étant la distance entre deux voisins. Donc, quand on a ça, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire un développement de Taylor des termes qui interviennent dans BI ici. Donc, je commence par le principal, le terme en grand J. Donc, mu i plus 1 plus mu i moins 1, bien, c'est le terme d'ordre 0, ça va être 2 fois mu au point xi. Et puis, le terme d'ordre 1 va s'annuler, puisque je vais avoir la contribution de moins 1 et la contribution de plus 1. Et puis, je vais donc à l'ordre 2, et j'ai donc à ce moment-là a carré fois la dérivée seconde de d2 mu par rapport à x2. Puis ensuite, le terme d'ordre 3 s'annulera, et le terme suivant sera d'ordre 4, mais je ne vais pas le regarder. Bien. Alors, quand je prends ça, le membre de droite ici, et que je l'injecte dans mon équation du mouvement ici, bien, vous voyez que je vais avoir le premier terme, le mu i, qui va devenir un mu de xi, eh bien, je vais le prendre, son produit vectoriel avec lui-même, et ça va donner 0. Donc, la chose qui va contribuer, venant du terme isotrope, ce sera cette dérivée seconde par rapport à x. Si je prends la deuxième contribution, dont je vous ai dit qu'elle était plus faible, hein, puisqu'elle est multipliée par j' ici, là, donc, je vais encore une fois faire ce développement de Taylor. Et donc là, mu i plus 1 plus mu i moins 1, bah, c'est 2 fois mu z de xi, qui va être multiplié par le vecteur unitaire le long de l'axe z. Donc ça, a priori, ça va contribuer. Il n'y a pas de raison que le produit vectoriel de z avec mu donne 0. Et puis, je pourrais aller à l'ordre 2, mais ce n'est pas la peine, en fait. Ce n'est pas la peine d'abord parce que l'ordre 0 contribue déjà. Et puis, comme j' est beaucoup plus petit que j, les termes que je prendrais, que je mettrais, n'auront pas de contribution significative. Donc, on va se limiter... on va garder ce terme-ci pour le terme en J, et puis ce terme-là pour le terme en J'. Donc, on récupère une équation du mouvement qui est écrite ici, d mu sur dt égale gamma mu vectoriel B, où mu est maintenant un champ, hein, c'est un champ continu, mu de x et de t. Et dans le B, eh bien, j'ai le terme en J, qui est donc la dérivée seconde de mu par rapport à x, avec a carré la période de mon réseau, plus 2 fois J', la composante de mu selon z, fois le vecteur unitaire selon z. Voilà. Donc ça, c'est une équation, qui est l'équation qui régit le mouvement de la chaîne magnétique, et vous constatez quand même qu'il y a des analogies fortes déjà avec ce type d'équation de Schrödinger non linéaire. À gauche, j'ai une dérivée première par rapport au temps, et puis à droite, ben, on voit apparaître des dérivées secondes par rapport à l'espace. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait montrer qu'il y avait une analogie complète. On sent qu'on a quand même les ingrédients qu'il faut pour y arriver à cette analogie, même si on n'a pas encore fait tout le travail. Alors là, je l'ai écrite dans sa version la plus simple. On peut ajouter l'action d'un champ magnétique extérieur. Ça, c'est fait dans les notes de cours. Je ne vais pas en avoir besoin aujourd'hui, donc je ne le fais pas. On peut également ajouter un terme dissipatif. Et à ce moment-là, cette équation change de nom. L'équation que j'ai écrite ici s'appelle l'équation de Landau-Lifshitz. Elle a été écrite dans les tout débuts de la physique quantique pour expliquer des phénomènes magnétiques, comment est-ce que les différents domaines magnétiques s'arrangent les uns avec les autres, comment ça se passe. Si j'ai un domaine de magnétisation donné ici, puis une magnétisation différente là, comment est-ce que je bascule d'un domaine à l'autre. Donc ça, c'est Landau-Lifshitz qui l'ont écrit en 1935. Et puis 20 ans plus tard, Gilbert a ajouté un terme dissipatif dans cette équation, et donc l'équation avec le terme dissipatif, que je ne vais pas utiliser ici, porte le nom d'équation Landau-Lifshitz-Gilbert. Voilà. Alors, cette équation, elle a l'air de dépendre de beaucoup de paramètres. Hein. Il y a des J, il y a des J', il y a des petits a, il y a des gamma, le rapport gyromagnétique. Donc, comme toujours, c'est intéressant de passer en unité réduite pour pas faire deux fois le même calcul sans s'en rendre compte. Et vous allez voir qu'en unité réduite, elle est remarquablement simple, cette équation. Donc là, je l'ai réécrite en unité naturelle, avec des bandes magnétiques donc, qui ont tous le même module, enfin, le champ maintenant, mu de x et de t, a partout le même module, mu. On prend comme unité de longueur x0 égale petit a, la période du réseau, fois racine de j sur 2 fois valeur absolue de j'. Je rappelle que j' peut être positif ou négatif. Donc mon unité de longueur x0, elle va être très grande devant petit a. Hein, parce que grand J, je répète, est grand devant J'. Ça, c'est important parce que si vous voyez apparaître des structures qui, en unité réduite, ont une dimension, une taille de l'ordre de 1, faut pas vous dire « Oh là là, je suis en train de regarder la discrétisation de ma chaîne ». Non, une structure de l'ordre, avec une taille de l'ordre de 1, donc de l'ordre de x0, ça correspond à beaucoup de périodes petit a de la chaîne. Donc une structure de l'ordre de 1 est tout à fait légitime. On n'est pas en train d'aller regarder la structure granulaire de la chaîne si je prends une structure égale à x0, de taille x0. Et puis l'unité de temps associée, elle est écrite ici. Ensuite, je vais introduire un moment éthique réduit, en quelque sorte. Je vais diviser le champ mu dx de t par sa valeur absolue mu, enfin son module mu, donc m est de module 1. Et à ce moment-là, l'équation de Landau-Lifshitz s'écrit sous cette forme très simple, dm sur dt égale m vectoriel b, avec b qui est simplement la dérivée seconde de m, plus ou moins mz. Donc là, il n'y a plus aucun paramètre. C'est une équation qui est universelle. La seule chose qui peut varier dans cette équation, c'est le signe ici qui peut être un plus ou un moins. Pourquoi est-ce que j'ai un signe qui est plus ou moins qui est venu s'introduire ? C'est parce que je dois prendre la valeur absolue de J' ici, et comme là j'avais J', j'ai un plus ou moins qui intervient. Donc selon que je suis dans le cas easy axis ou easy plane, axe favorisé ou plan favorisé, je mettrai un plus ou un moins ici, puisque c'est ça qui détermine si je suis dans le cas J' positif ou J' négatif. Et vous voyez, j'ai une équation qui maintenant en fait, ne dépend d'aucun paramètre. Donc c'est une équation qu'on peut qualifier d'universelle. Alors, une dernière chose que je voudrais dire sur cette chaîne, c'est passage en coordonnées angulaires, puisque j'ai affaire maintenant à un vecteur M qui est de module 1, enfin un champ qui est de module 1, ce champ, je peux donc le paramétrer complètement par son orientation dans l'espace, θ et φ. Donc plutôt que de travailler avec l'équation sur les trois composantes de M, je peux écrire l'équation d'évolution de l'angle θ et de l'angle φ. θ, c'est donc l'angle que fait M par rapport à z, et φ, c'est l'angle azimutal de mon vecteur avec les coordonnées polaires d'axe z. Et quand on fait ça, on obtient les équations qui sont écrites ici. Alors là encore, ce sera pour les week-ends pluvieux, si vous voulez vous en convaincre. C'est pas très méchant, faut juste injecter les mz égale cos θ, mx égale sinus θ, cosinus φ, etc. dans l'équation du haut, là, celle-là. Et puis quand on fait ça, on arrive à ces équations-ci. Donc vous reconnaissez vos petits. À gauche, vous avez toujours une dérivée première par rapport au temps, θ dérivée par rapport au temps, φ dérivée par rapport au temps. Et puis à droite, vous reconnaissez des dérivées secondes par rapport à la position. Alors, ou bien c'est des dérivées secondes directes comme le phi x, x qui est là, donc dérivée seconde de phi par rapport à x, ou θ x, x qui est là, mais ça peut aussi être des produits de dérivées premières comme θ x, phi x ici, ou phi x carré ici. Voilà. Mais bon, là, il faut que vous me fassiez confiance à ce stade, parce que si je me mets à redériver ça au tableau, d'abord je ferai des fautes, et puis en plus, ce ne sera pas passionnant. Voilà. Donc j'ai toujours le plus ou moins qui est ici, selon le cas plan favorisé ou axe favorisé. Bien, ayant fait ça, maintenant, je vous propose de passer à notre mélange binaire de condensats. Problème qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir, mais on va voir qu'en fait, les deux problèmes sont mathématiquement équivalents. Donc, je me pose le problème d'une boîte dans laquelle je mets deux espèces, des atomes bleus et puis des atomes rouges, enfin, des particules bleues et des particules rouges, plus généralement. Et la première chose que je dois faire, c'est de me poser la question, est-ce que c'est un mélange miscible ou immiscible ? Est-ce que je suis en train d'avoir affaire à un mélange eau plus huile ou eau plus alcool ? Alors, on va regarder ça ensemble de manière très simple. La question, c'est quelle est la configuration qui correspond à l'énergie minimale ? Est-ce que les bleus et les rouges remplissent tout l'espace ? Ou est-ce qu'au contraire, les bleus vont se mettre d'un côté et puis les rouges de l'autre avec une frontière fictive qui s'établit naturellement ? Je peux la dessiner, voilà, entre les deux. Alors, pour étudier ce critère de miscibilité, je vais négliger les effets de surface. Je vais dire que j'ai pas d'effet que les effets de surface sont négligeables par rapport aux effets de volume. Si j'étais en physique classique, ça voudrait dire que je néglige les effets de tension superficielle. En physique quantique, dire qu'on néglige les effets de surface, ça veut aussi dire qu'on néglige les effets d'énergie cinétique. C'est-à-dire que si je dois mettre ici une barrière, la barrière verte que j'ai dessinée, il peut y avoir une énergie cinétique liée à la présence de cette barrière, je le néglige, ça. Voilà. Donc je m'intéresse simplement aux énergies d'interaction volumique. Donc je dois comparer l'énergie de la configuration 1, celle de gauche, le cas miscible, où là, j'ai mes deux fluides qui occupent le volume V. Donc l'énergie d'interaction, ben, c'est celle qui donne lieu à cette fonctionnelle de Gross-Pitaïevski, enfin, cette partie-ci de la fonctionnelle de Gross-Pitaïevski, l'énergie d'interaction qui est écrite ici et puis là. Donc c'est quelque chose qui va s'écrire 1 sur 2V G1 fois N1 carré, grand N1 c'est le nombre de particules bleues là-dedans, plus 2 fois G1,2 N1, N2, je rappelle que G1,2 et G2,1 sont égales, hein, c'est ce que j'ai écrit ici, plus 2 fois G1,2 N1, N2, ça c'est l'énergie d'interaction inter-espèce, et puis l'énergie d'interaction pour l'espèce, intra-espèce pour l'espèce 2, G2,2 N2 carré. Bien. La configuration 2, eh bien, j'ai mes deux fluides qui se sont débrouillés pour occuper respectivement les volumes V1 ici et puis V2 ici. Donc l'énergie d'interaction que je dois mettre, c'est G1 N1 carré sur 2V1, puis G2, 2 carré, G2 2 N2 carré sur 2V2. Je n'ai pas d'énergie d'interaction inter-espèce puisque je n'ai pas de superposition de 1 et 2 ici. Et puis V1 et V2, à ce stade, bah, ils sont libres. Hein, c'est le système va choisir de prendre le V1 et le V2 qui minimisent l'énergie. Donc il faut que je minimise l'énergie E séparée, là, avec la contrainte que la somme des volumes, évidemment, doit être constante, doit être égale à grand V, le volume total offert. Donc ça, c'est une minimisation qui n'est pas méchante à faire. Hein, faut dériver par rapport à V1 et par rapport à V2, sachant que la somme doit être constante. Donc ça, je saute l'étape, mais là, il n'y a vraiment aucune malice dans le calcul. Et ce qu'on trouve après minimisation sur V1 et V2, c'est écrit ici. Je retrouve 1 sur 2V, donc le volume total qui est venu se mettre en facteur, G1, N1 carré, la moyenne géométrique de G1, G2, 2, et puis G2, N2 carré, que je dois comparer à ma configuration 1, que j'ai réécrite ici. Et là, bah, on voit immédiatement qui est-ce qui gagne. La condition de miscibilité, ce sera la configuration 1 qui va gagner, c'est-à-dire celle-ci, si G1,2 est plus petit que la moyenne géométrique de G1 et de G2,2, et puis dans le cas inverse, eh bien, on aura affaire à un mélange non miscible. Voilà, donc ça c'est un critère simple de miscibilité dans ce système. Bien, donc on va prendre notre mélange de condensat, on va pour l'instant pas dire si on se met dans le cas miscible ou non miscible. Après, je favoriserai le cas non miscible, mais pour l'instant, je traite les deux cas simultanément. Et donc, je me dis, ben, maintenant, je reviens à la physique quantique, hein, donc il y aura de l'énergie cinétique qui va jouer un rôle. Je me demande comment est-ce que je vais décrire cette chose-là. Donc, je peux le décrire par deux champs complexes, psi1 et psi2. C'est ce que j'ai fait quand j'ai écrit les deux équations couplées qui sont au tableau, là. Je peux également, c'est ce qu'on va faire, préférer travailler avec des champs réels. Et ça, bah, pour ça, vous savez tous comment on fait. Hein. C'est psi 1, ce champ complexe ici, j'écris que c'est la racine de la densité rho 1 qui dépend de x et de t fois un facteur de phase et puissance i phi 1 qui dépend également de x et de t. Même chose pour psi 2, donc j'ai quatre champs réels, les deux densités et les deux phases, rho 1 phi 1, rho 2 phi 2. Et je vais me placer dans ce qui va suivre, dans un régime particulier qui est ce que j'annonçais en introduction, la situation où tous les coefficients Gij sont voisins les uns des autres. C'est-à-dire que G1,1 est à peu près égal à G1,2, qui est lui-même à peu près égal à G2,2. Régime qu'on appelle régime de Manakov et qui permet de simplifier pas mal les choses. Et la raison pour laquelle ce régime de Manakov, ce régime dans lequel les trois coefficients Gij sont proches l'un des autres, pourquoi ça simplifie ? Eh bien, c'est parce que quand on a cette condition qui est satisfaite, eh bien, on a deux échelles d'énergie très différentes qui apparaissent dans le système. Je vais vous expliquer qualitativement pourquoi. On peut mettre des équations sur ce que je vais dire, mais je vais contenter de le faire qualitativement. Mais le point clé, c'est que si j'ai ces deux échelles d'énergie très différentes, je peux, si je me débrouille bien, me limiter à l'échelle d'énergie la plus basse, si j'apporte peu d'énergie au système. Et si je peux me limiter aux excitations de basse énergie, eh bien, au lieu d'avoir à travailler avec quatre champs réels, eh bien, je peux me ramener à seulement deux champs réels. Voilà. Et donc, la situation sera beaucoup plus simple. Alors, c'est quoi ces deux échelles d'énergie ? Donc, pour simplifier les calculs, et ça, c'est simplement pour simplifier, hein, c'est pas obligatoire de le faire, je vais supposer que G1,1 est égal à G2,2. Donc, celui-là, ces deux-là sont égaux. Je vous décrirai tout à l'heure une expérience dans laquelle, effectivement, cette condition est réalisée à cause des symétries du problème. En revanche, lui, G1,2, il n'est pas strictement égal à G1,1 et G2,2. Donc G1,2 diffère légèrement de G1,1 et G2,2. Et cette différence, je la note GS. Pourquoi GS ? L'indice S, c'est un indice de spin, parce que finalement, ce système de mélange 1,2, je peux le décrire par une sorte de pseudo-spin qui me décrit les amplitudes de probabilité d'être en un point donné dans l'état 1 ou dans l'état 2. Donc ça, je peux introduire un pseudo-spin associé à cette superposition. Et j'appelle donc ce constant d'interaction GS, la différence entre G1,2 et G. Et donc on va se placer, dire que je prends les trois à peu près égales, ça veut dire que je me place au voisinage de la limite de miscibilité, puisque G1,2 est voisin de la moyenne géométrique G1,1, G2,2, qui est donc ici petit g. Alors, c'est quoi les deux types d'excitation qui font appel à des énergies très différentes ? Eh bien, les excitations de basse énergie, qui encore une fois sont celles qui vont m'intéresser ici, c'est des interactions qui se produisent à densité totale constante. C'est-à-dire que je vais considérer des situations où mon ρ2, par exemple, présente comme ça des bosses ici, et puis est nul à gauche, et puis est nul à droite. Et puis ρ1, il présente un déficit exactement là où ρ2 a une bosse, de telle sorte que la somme ρ1 plus ρ2 est constante. Pourquoi est-ce que ça va me donner lieu à des excitations de basse énergie, d'avoir une densité totale constante ? Bien simplement parce que si je prends un endroit où je me mets, par exemple, complètement à gauche, ici, si je me mets ici, et donc là, j'ai une densité qui est uniquement du ρ1, pas de ρ2, et puis je décide d'amener des atomes ρ2 en cet endroit-là, donc en enlevant des atomes ρ1, eh bien, la différence d'énergie entre la configuration finale et puis la configuration initiale, ça fera intervenir précisément les différences entre G1,2 fois la densité 2 moins G1,1 fois la densité 1, puisque j'ai remplacé des atomes 1 par des atomes 2 en gardant une densité constante. Donc on voit que ça va être la différence des G qui va contribuer, simplement, et cette différence des G, elle est toute petite devant G lui-même, ou G1,2 lui-même. Donc les excitations à densité totale constante ne font intervenir que GS, je me contente de substituer des atomes 1 par des atomes 2 et vice-versa, alors que maintenant, si je vais regarder des excitations où la densité totale varie, c'est-à-dire que j'essaie de mettre localement une bosse d'atome 1 et une bosse d'atome 2, là l'énergie que je vais devoir payer, l'énergie d'interaction, ce sera directement G1,1 fois la densité 1 plus G2,2 fois la densité 2, donc ce sera une énergie beaucoup plus grande. Donc, encore une fois, on peut mettre des équations et mettre des choses rigoureuses sur ce que je viens de dire, mais on voit assez naturellement pourquoi cette hypothèse GS petit devant G conduit à ces deux échelles d'énergie différentes. Et encore une fois, moi je vais me limiter maintenant à des situations où la densité totale est constante, hein, et la seule chose qui change, c'est la répartition entre 1 et 2 en un point donné. Bien, alors, comment est-ce que je décris ça mathématiquement ? Eh bien, dès que vous avez deux nombres dont la somme est constante, c'est toujours intéressant de dire qu'il y en a un qui est un cosinus carré et puis l'autre qui est un sinus carré, on ne peut pas se tromper. Donc, je vais écrire que ρ1, c'est ρ0 fois cos carré d'un angle θ, précisément, je vais mettre θ sur 2, et ρ2, ce sera ρ0 fois le sinus carré de ce même angle, θ sur 2. En d'autres termes, ma fonction d'onde pour mes deux superfluides va s'écrire pour ψ1, racine de ρ0, qui est donc une constante, cosinus θ sur 2 fois et puissance φ1, et pour ψ2, ρ0, sinus θ sur 2 et puissance φ2. Bien. Donc, je suis passé de 4 champs, à 3 champs. Ces trois champs, c'est θ d'une part, et puis φ1 et φ2. Bien, mais j'ai dit que j'en voulais que deux. Alors pourquoi est-ce que je peux encore éliminer un champ ? Eh bien, c'est parce que, à partir du moment où je suppose que la densité totale est constante, eh bien, les phases φ1 et φ2 n'évoluent pas de manière indépendante. La raison pour ça, c'est que si je dis que la densité totale est constante, ça veut dire que le courant total ne doit pas dépendre de l'espace, c'est l'équation de continuité qui me le dit, hein, d'ρ sur dt plus divergence du courant égale 0. Donc si la densité totale est constante, ça veut dire que mon courant ne doit pas dépendre de l'espace. Et le courant total, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le courant total, c'est ρ1 fois la vitesse dans le fluide 1 plus ρ2 fois la vitesse dans le fluide 2. Et la vitesse dans le fluide 1, c'est au coefficient h bar sur m près la dérivée de la phase φ1 par rapport à x. Même chose, la vitesse dans le fluide 2, V2, c'est la dérivée de φ2 par rapport à x. Donc dire que le courant total est un indépendant de X, ça vient m'imposer une relation entre phi 1 et phi 2, plus précisément entre leur dérivée par rapport à X, la dérivée par rapport à X de phi 1 et la dérivée par rapport à X de phi 2. Donc phi 1 et phi 2 n'évoluent pas de manière indépendante et sont liées les unes aux autres, et c'est ça qu'il faut que je prenne en compte maintenant pour aboutir à mes deux champs indépendants. Donc, pour le faire, pour éliminer donc, une des deux phases phi 1 et phi 2, en fait, on a plutôt intérêt à travailler avec les fonctions somme et différence. Donc là, je vous ai réécrit les fonctions des superfluides, hein, là, il n'y a pas d'information nouvelle. Mais ici, j'introduis donc la fonction somme grand phi, qui est la somme phi 1 plus phi 2, la fonction différence petit phi, qui est la différence phi 2 moins phi 1. Et si je suppose que mon courant total est nul, je vous ai dit que sa divergence doit valoir 0, mais donc il est constant dans l'espace. Ici, je vais me limiter au cas où il est nul. Dans les notes, je traite le cas où il est constant mais non nul. Mais là, bon, pour simplifier, je vais supposer qu'il est nul. À ce moment-là, eh bien, dire que le courant total est nul, ça vient me verrouiller la phase grand phi sur la phase petit phi. C'est-à-dire que grand phi, dérivé par rapport à x, est égal à cosinus theta, l'angle de mélange ici, qui intervenait là, dans le cos et dans le sin. Grand phi x, c'est cos theta fois petit phi x. Donc, au bout du compte, je peux paramétrer mon mélange à deux fluides par simplement deux champs que j'ai appelés θ et φ, comme la chaîne magnétique, ce n'est pas un hasard, de la manière suivante. Mon spinner ψ1, ψ2, je récapitule, hein, c'est donc racine de ρ0, la phase globale grand φ, qui était la somme φ1 plus φ2 que je viens mettre en facteur, cosinus θ sur 2 et puissance moins i φ sur 2, sinus θ sur 2 et puissance plus i φ sur 2. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai mon équation mes équations de Schrödinger non linéaires couplées qui sont celles que j'ai écrites au tableau. Et ce qu'il faut faire, c'est remplacer ψ1 par son expression qui est écrite ici, ψ2 par son expression qui est écrite ici, et puis en déduire les équations d'évolution de θ et de petit φ, sachant qu'à chaque fois que vous verrez apparaître un grand φ, eh bien, il faudra remplacer par cosinus θ petit φ. Enfin, grand φ x par cosinus θ. Petit phi x. Bien. Là encore, je ne le fais pas au tableau. Vous sentez que ça peut être assez douloureux, mais il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. C'est bien balisé. Alors, je vais vous donner tout de suite le résultat avec des variables commodes, enfin un dimensionnement commode. Donc, le dimensionnement qu'il faut prendre, c'est prendre comme unité de longueur un x0 qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui est h bar sur 2m g rho 0. C'est la longueur de cicatrisation qu'on avait introduite la dernière fois. Simplement, ici, comme toute la dynamique est liée au spin, le petit g qui intervient dans ce x0, c'est le gs. C'est la constante qui est liée aux interactions de spin. Donc, comme je vous ai dit que gs est très petit devant g, ça veut dire que ma longueur de cicatrisation liée au spin, ce x0 ici, est grand devant les x0 auxquels on était habitué dans les cours précédents. Mais bon, c'est ça qui compte, puisque c'est gs qui compte dans le problème. Et puis la variable temporelle, ben, même chose que les autres fois, je la lis à x0 par 2m x0 sur h bar. Et quand je fais ça, eh bien, j'obtiens deux équations de. Donc mes deux équations de Schrödinger non linéaires couplées me donnent deux équations couplées pour θ et φ. Donc pas de surprise, à gauche c'est une dérivée première par rapport au temps, à droite ça va être des dérivées secondes par rapport à l'espace. Et ces équations, ben, elles dépendent d'un signe, plus ou moins. Le signe plus, c'est dans le cas où GS est positif. Vous voyez que là, j'ai la valeur absolue de GS. Hein, donc, pareil, il faut que je distingue selon que GS est positif ou négatif. Le signe moins, eh bien, c'est quand GS est négatif, donc dans le cas miscible. Et ces équations sont exactement les mêmes que celles de la chaîne magnétique. Il n'y a aucune différence, il n'y a pas de facteur 2 ni rien. Enfin, on s'est débrouillé pour. Donc, étudier un problème, c'est étudier l'autre. Hein. On parle souvent de simulation quantique, ben là on est dans un cas, alors c'est peut-être pas très quantique, c'est des champs classiques, mais bon, c'est une simulation parfaite d'un système par l'autre, ce sont les mêmes équations du mouvement. Voilà. Donc la correspondance, hein, je la rappelle, c'est canon miscible GS positif correspond à easy axis, plan favorisé, J' positif, et puis le cas miscible G négatif correspond au cas easy plane J' négatif. Bien, et bien, ayant ça, on est armé pour passer aux solitons magnétiques. Alors, ces solitons magnétiques, ils ont été étudiés, je dirais, dès que Landau et Lifshitz ont écrit leur équation dans les années 30. Hein. Pourquoi ? Ben parce que c'est des structures localisées, donc comme je disais, c'est des structures qui sont susceptibles d'apparaître. Quand vous mettez des domaines de magnétisation différentes en contact les uns avec les autres, eh bien à l'interface, vous avez des structures localisées et ça peut donner naissance à ces solitons. Donc, il y a toute une littérature, pendant tout le XXe siècle, et ça continue au XXIe, sur les solitons magnétiques. Là, je vous ai mis un article qui date un petit peu, qui est de la fin des années 90, de Kosevich et al., mais c'est un article qui fait plus de 100 pages, donc il contient vraiment beaucoup de références et beaucoup de développement théorique dessus. J'ai aussi cité dans les notes des articles beaucoup plus récents sur les vrais solitons magnétiques, donc je vous renvoie vers ça si vous êtes intéressé. Dans les gaz quantiques, c'est-à-dire dans traiter les mélanges de la manière que je viens d'expliquer, ça c'est beaucoup plus récent. Je dirais que le papier qui a vraiment mis les choses complètement au clair, c'est un papier du groupe de Trento, Q, Pitayevski et Stringari, en 2016. Et puis ensuite, il y a eu des expériences qui ont été faites sur les solitons magnétiques, qui datent de 2020. Alors la première référence, là, c'est le groupe de Gabriele Ferrari, toujours à Trento. Le deuxième groupe, c'est le groupe de Chandraraman, à Georgia Tech. Donc ça, c'est dans le cas miscible. Voilà, donc l'équivalent du cas plan favorisé. Et puis, ensuite, il y a le cas non miscible, qui est celui sur lequel je vais me concentrer dans la suite, où là, la théorie, elle est publiée dans plusieurs articles, mais je dirais celui qui est peut-être le plus pertinent pour nous, c'est un article qui est sorti il y a 2 ans, toujours du groupe de Trento, par Brezolin et al. Et l'expérience, c'est une expérience qu'on a faite ici, au Collège de France, qui n'est pas encore publiée. J'ai mis 2025, ça dépend si les référis sont gentils avec nous ou pas. Voilà, donc je vous décrirai à la fin nos résultats expérimentaux. Bien. Donc on va se mettre dans le cas non miscible. Comme je dis, c'est le cas qui a été étudié ces toutes dernières années, ces 2 ou 3 dernières années. Donc on va s'intéresser à une situation où j'ai un bain de particules 1 que je vais étendre jusqu'à l'infini, au moins dans un premier temps. Je suis dans le cas non miscible, donc je vais créer un trou dans le bain, et ce trou, eh bien, je vais le boucher avec des particules de type 2. Donc cette particule de type 2, j'en aurai un nombre N2 qui sera de l'ordre du millier, disons. Je l'appelle mésoscopique, c'est-à-dire que c'est un nombre de particules qui est grand devant 1, quand même, mais j'ai beaucoup moins de particules dans cette impureté que dans le reste du bain. Le bain, il ne s'étend pas jusqu'à l'infini dans l'expérience, mais néanmoins, il va contenir plusieurs dizaines de milliers de particules, alors que le nuage rouge, là, contient beaucoup moins d'atomes. Et je vous rappelle, je me place dans l'hypothèse d'une densité totale constante, c'est-à-dire que la bosse de densité créée par ces particules 2 est exactement compensée par un trou de densité dans le bain 1. Je cherche donc mes fonctions d'onde sous cette forme-là. Pour décrire, je cherche un soliton. Hein, là. Donc je prends cette fonction d'onde sous cette forme-là. Je vous rappelle, donc j'ai une phase globale grand phi qui s'est mise en facteur. Cette phase globale grand phi, elle est verrouillée sur la phase petit phi qui est une phase différentielle entre 1 et 2, hein, puissance moins i phi sur 2 et puissance plus i phi sur 2. Et je cherche un soliton, donc je cherche quelque chose qui peut éventuellement être au repos ou se propager à vitesse v, sans se déformer. Donc je vais chercher une solution qui est de la forme pour θ sous la forme x moins vt, et puis phi sous la forme ωt, une fonction qui de x moins vt. Alors attention, j'ai besoin de 2 paramètres hein, pour paramétrer ce soliton. J'ai besoin de la vitesse v et j'ai besoin d'ωt. Il y a eu dans les années qui viennent de s'écouler des groupes, enfin un groupe peut-être, qui a essayé de chercher une des solutions sans mettre le grand oméga, simplement une fonction de x moins vt à la fois pour θ et pour φ, et ils sont passés à côté des choses les plus intéressantes. Donc on est obligé de mettre ces 2 paramètres, v et oméga. Donc pour bien préciser les choses, je cherche mon effaceur, voilà. Donc je vais prendre ces 2 paramètres V et oméga, donc ces 2 paramètres réels. Hein. Donc, je vais étudier ce qui se passe dans un plan où je peux mettre V en abscisse et oméga en ordonnée, comme ça. Voilà. Et on va essayer de remplir le plan de manière la plus intelligente possible. Alors, commençons par le soliton au repos. Donc, je vous rappelle la règle du jeu. Je prends θ de x t qui vaut cette fois-ci θ de x, puisque j'ai pris v égale 0. Phi de x et de t qui est grand oméga t plus chi de x. Donc mon seul paramètre là c'est grand oméga. J'ai ces équations là. Donc je vais injecter cette forme où θ de x et de t ne dépend que de x et puis où phi de x et de t dépend simplement du temps via ce oméga. Donc le θ de t ici sera nul, le phi de t ce sera oméga. Et puis ensuite eh bien, il s'agit de trouver les formes en x. Donc ça fait deux équations différentielles couplées à résoudre. Voilà, on y arrive. C'est un peu douloureux, mais pas trop. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est la chose suivante. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble. D'abord, on trouve une solution seulement si oméga est plus grand que moins 1. Donc, sur mon axe, là, je peux mettre moins 1 ici. Donc, pour l'instant, je me limite à l'axe V égale 0, hein, et je dois donc oublier toute cette partie-là. Si oméga est plus grand que moins 1, là, je trouve une solution. Et cette solution, donc, elle s'écrit 2, enfin, c'est sinus carré θ. Donc là, je suis en train de vous tracer la densité rouge, sachant que la densité bleue, c'est juste ρ0 moins la densité rouge. Hein. Donc la densité ρ2 divisée par ρ0, c'est ce que j'appelais sinus carré θ, c'est 2 fois 1 plus oméga, donc ça, c'est bien positif si oméga est plus grand que moins 1, divisé par 2 plus oméga plus valeur absolue d'oméga. Oméga peut être négatif, hein, je peux être ici. Donc valeur absolue d'oméga fois un cosinus hyperbolique, on cherche des solitons, donc si on n'avait pas de cosinus hyperbolique, on serait triste. Donc on a bien un cosinus hyperbolique de 2 fois racine de 1 plus oméga fois x. Bien. Alors ça ne doit pas vous dire grand-chose. Ce que je peux calculer, c'est le nombre d'atomes dans l'espèce 2. Pour ça, il faut simplement que je prenne l'intégrale ici de ρ2, hein, je prends l'intégrale de ρ2 sur tout l'espace, et j'en déduis le nombre d'atomes dans l'espèce 2, n2, donc ça c'est une intégrale, ça se calcule, et on trouve un log d'une certaine fonction ici de oméga. Voilà. Et donc, comment est-ce que je dois utiliser ça? En pratique, si je fais une expérience, je sais combien je vais mettre d'atomes n2, et donc je me demande quel oméga le système va choisir. Donc il faut que j'inverse cette fonction-là, n2, et ça, je ne sais pas le faire analytiquement, mais je sais le faire par une construction graphique. Donc si je vous trace cette fonction qui est ici, ce log de cette grosse fraction-là, eh bien, ce qu'on voit tout de suite, c'est que quand oméga tend vers 0, cette fonction va diverger, puisque j'ai le dénominateur ici qui tend vers 0, alors que le numérateur tend vers une limite finie. Donc en 0, cette fonction diverge. Et puis, elle tend vers 0 quand oméga tend vers moins 1, qui est la limite basse, ici. Et elle tend vers 0 quand oméga tend vers plus l'infini, parce que l'intérieur du log tend vers 1, dans les deux cas. Donc, en pratique, si vous me donnez une valeur de n2, et si par ailleurs je connais la valeur de ρ0 et de x0, mon unité de longueur, eh bien, je suis capable d'inverser ça graphiquement. Donc, supposons que vous me donniez, par exemple, n2 sur ρ0 x0 égale 1, eh bien, je trace la ligne bleue, ici, et puis je trouve deux points d'intersection, A et B, ici, qui correspondent donc à deux valeurs possibles de oméga. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport aux solitons brillants auxquels on était habitués, par exemple. Quand on avait regardé les solitons brillants, eh bien, si on se donnait un nombre d'atomes, on avait un soliton solution, point final. Là, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a donc deux solitons possibles si je prends un nombre n2 donné. Et ces deux solutions que j'ai notées A et B ici sont très différentes l'une de l'autre. La solution A, celle qui est entre moins 1 et 0, donc celle qui est ici, hein, je peux les dessiner ces deux solutions, voilà, j'ai trouvé la solution A qui est ici et puis une solution B qui va être ici. La solution A, c'est une solution pour laquelle la fonction ρ2 est relativement étalée et pas très haute. C'est-à-dire que, puisque vous vous souvenez que ρ2 plus ρ1 doit être égal à ρ0, eh bien ρ2 n'atteint pas du tout la valeur ρ0 ici. Hein, ρ2 est nettement plus petit que ρ0, donc ça veut dire que le bain n'est pas complètement déplété. Le bain présente un trou, mais il n'est pas complet, le trou, puisque, encore une fois, ρ2 n'a pas une densité suffisante pour saturer ρ0. La solution B, qui contient le même nombre d'atomes que la solution A, hein, c'est comme ça que je l'ai construite, elle est au contraire beaucoup plus ramassée sur elle-même et elle correspond à une annulation de la densité du bain. Le bain, c'est donc les particules bleues. La solution B sature complètement ρ1 plus ρ2 égale ρ0. Donc le bain, la densité du bain est nulle. Et quand on va regarder la phase du bain, en fait, on constate que la phase du bain vaut 0 à gauche et pi à droite, ou plus généralement, j'ai une différence de phase de pi entre la gauche et la droite. C'est l'équivalent du tangente hyperbolique qu'on avait la dernière fois, qui était positif d'un côté, négatif de l'autre. Et bien là, c'est la même chose que ce qui se passe pour la fonction du bain quand je prends la solution B. Voilà, donc on a ces deux solutions, A et B. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour voir ça expérimentalement? Pour l'instant, je ne regarde que le soliton au repos. On s'est pris de la manière suivante. On a travaillé avec un condensat d'atomes de rubidium. L'atome de rubidium, dans son état fondamental, a un spin 1. Et on a préparé tous les atomes dans le sous-niveau Zeeman, m égale moins 1, initialement. Et on a préparé ces atomes sur un segment très étroit, donc pour faire un gaz quasi 1D. La largeur du segment, c'est de l'ordre de 2-3 microns. Et la longueur du segment, c'est 50 ou 60 microns. J'ai dû l'écrire ici, 60 microns. Voilà. Et la densité, c'est 400 atomes par micromètre. C'est le ρ0 que j'ai mentionné avant. Donc, si je ne me trompe pas, 60 microns fois 400 atomes par micron, ça fait 24 000 atomes. Voilà, ça c'est le nombre d'atomes dans le bain. Bien, alors comment est-ce qu'on s'y prend pour faire un soliton? Eh bien, on va transférer, de manière très sélective, quelques atomes, ou un millier d'atomes, disons, de l'atome, du niveau moins 1 vers le niveau plus 1, ici. Alors, on fait ça par un processus multiphotonique, il y a des photons radiofréquences, et puis des photons optiques, de longueur d'onde optique, donc des photons issus d'un laser, et ce faisceau laser, on va le mettre en forme pour que la transition ne se fasse qu'au voisinage du centre du segment. Là, le segment est représenté ici. On se débrouille pour que le laser, en fait, n'éclaire que le centre du segment, et qui plus est, qu'il ait un profil spatial qui reproduise bien cette fonction en 1 plus cosinus hyperbolique, enfin 1 sur 1 plus cosinus hyperbolique qui caractérise le soliton. Donc, si vous voulez, on imprime le mieux qu'on peut la fonction d'onde du soliton lors du transfert de moins 1 vers plus 1, ici de m égale moins 1 vers m égale plus 1, ce que j'ai appelé 1 avant et puis 2 ensuite. Donc, à l'instant t égale 0, on prépare ici un petit paquet rouge dans un bain bleu. Vous noterez que le mécanisme de préparation respecte d'emblée la condition que ρ1 plus ρ2 doit être égal à ρ0, puisqu'on a initialement une densité uniforme et on se contente de basculer l'état de spin de certains atomes de moins 1, de m égale moins 1 vers m égale plus 1, mais la densité totale, elle, est non modifiée par construction. Bien, donc on prépare ça à l'instant t égale 0, et la question c'est est-ce qu'on a bien un soliton ou pas ? Si on a bien un soliton, ce paquet doit rester immobile, ne doit pas se déformer. Si on s'est trompé, il doit s'étaler ou se contracter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on conserve un profil spatial constant, une largeur qui fait 4-5 microns à peu près, mais on va varier le nombre d'atomes, c'est-à-dire qu'on va varier finalement la durée de l'impulsion qui fait passer de moins 1 à plus 1. Et ici, vous avez l'évolution de la taille de la structure qu'on fabrique, donc de cette taille, de cette structure rouge ici, en fonction du temps, selon le nombre d'atomes qu'on a placés. Donc, les courbes du haut, ici, on a mis très peu d'atomes, 200 pour la courbe la plus haute. La courbe du bas, on a mis beaucoup d'atomes, on en a mis 1000, 1024. Bon, 1024, il y a une barre d'erreur, on en a mis de l'ordre de 1000 dans la courbe du bas. Et puis, ce qu'on voit, c'est que il y a un nombre d'atomes qui correspond à pas d'étalement et pas de contraction du paquet. La largeur reste constante en fonction du temps. Et ce nombre d'atomes, pour ce choix de paramètres, c'est de l'ordre de 400. Et ça, c'était en bon accord avec ce qu'on attendait. Donc, dans cette expérience, ce qu'on prépare, c'est la solution de type A. C'est la solution où le bain n'est pas complètement déplété. Et on vérifie que si on met bien le bon nombre d'atomes, on a effectivement un soliton. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on cherche une solution avec un soliton en mouvement? Alors, le soliton au repos, les calculs n'étaient pas très simples. Le soliton au mouvement, ils sont franchement un peu rébarbatifs. Mais encore une fois, je vous donne le résultat et puis je vous encourage à vérifier la solution si ça vous intéresse. Alors, voilà à quoi elle ressemble, cette solution. Donc je l'ai mis toujours sous la forme ρ2 sur ρ0, donc ce n'est pas l'ensemble de la solution puisque je ne vous donne pas la valeur des phases, qui ne sont pas non plus très agréables, mais tout ça c'est écrit dans les notes. Alors la densité est donc ρ2 sur ρ0, le sinus carré θ, il y a un numérateur qui est donc une constante. Tout à l'heure on avait 2 fois 1 plus oméga. Donc la différence par rapport au k vitesse nulle, c'est qu'il y a moins v carré sur 4 qui est venu s'ajouter ici. Et puis au dénominateur, bah, tout à l'heure ici, si vous vous souvenez bien, on avait une valeur absolue de oméga qui a été remplacée par racine de oméga 2 plus v2. Et puis là, bah, de la même façon, on avait un racine de 1 plus v oméga qui est devenu un 1 moins v2 sur 4. Voilà. Alors, que dire de ça? Une première chose, c'est que vous voyez apparaître une racine carrée ici. La moindre des choses, c'est que l'argument de la racine carrée soit positif. Donc il faut que oméga soit plus grand que moins 1 plus v carré sur 4. Tout à l'heure, on avait simplement oméga plus grand que moins 1 sur l'axe x. Maintenant, j'ai oméga plus grand que moins 1 plus v carré sur 4. Donc dans ce plan, qu'est-ce que c'est? Ça, ben, c'est une parabole. Donc c'est quelque chose qui fait comme ça et qui repart ici. Donc toute cette zone-là, je dois l'exclure parce qu'elle correspond à oméga qui serait plus petit que moins 1 plus v carré sur 4. Bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce que je relis mon oméga au nombre d'atomes. C'est-à-dire que si je veux fabriquer un soliton qui contient n2 atomes et qui va à vitesse v, quel est l'oméga que je dois choisir? Donc là, pareil que tout à l'heure, il faut prendre l'intégrale de cette chose-là, ici, voilà, l'intégrale sur dx, faire le calcul. C'est des intégrales de fonctions avec des cosinus hyperboliques, donc ça se calcule. Il y a des tables pour ça, ça se calcule bien. Mathematica donne aussi le résultat correct. Et ce résultat, on peut le mettre sous cette forme-là. C'est la forme la plus compacte que j'ai trouvée. Cosinus hyperbolique de n2 sur ρ0x0 égale ce rapport-là. 2 plus oméga divisé par racine d'oméga 2 plus v2. Donc si je me demande, à n2 fixé, quel est l'ensemble des points dans ce plan que je trouve? Donc je sais que j'ai déjà ces deux points A et B à vitesse nulle, mais si je prends une vitesse non nulle, où est-ce qu'ils vont être, les points pour un N2 donné? Eh bien, il faut que j'écrive que ça est constant. Donc 2 plus oméga sur racine d'oméga 2 plus C2 égale quelque chose que je note grand C. Donc si j'élève ça au carré, je trouve 2 plus oméga au carré égale C2 fois oméga 2 plus V2. Et ça, vous reconnaissez l'équation d'une conique, et plus précisément l'équation d'une ellipse. Donc ça veut dire que si je me fixe N2, eh bien, les valeurs des couples oméga V qui sont disponibles, c'est une ellipse qui doit passer par ces deux points A et B, et cette ellipse, je vais la tracer d'une couleur différente, ce sera peut-être plus clair, je vais la mettre en rouge, cette ellipse elle va être comme ça. Voilà. Bon, ça ne ressemble peut-être pas trop à une ellipse que j'ai dessinée, mais vous m'autoriserez que voilà, c'est à peu près une ellipse. Mais en vrai, c'est une vraie ellipse. Voilà. Donc c'est une ellipse. Voilà. Donc ça, c'est j'insiste bien, c'est l'ensemble des points oméga v n2 fixé. Voilà. Et donc, si vous êtes capable de faire des choses à votre soliton, eh bien votre soliton que vous avez préparé avec n2 atomes, par exemple dans l'état A, n'a pas le choix. Il doit rester sur cette ellipse. On ne sait pas encore quel mouvement il va prendre, mais si on agit sur lui en rajoutant des forces et des choses comme ça, eh bien, cette soliton doit rester sur cette ellipse. Alors, pour savoir ce qui va lui arriver, on a besoin de connaître son impulsion et son énergie si on veut savoir ce qui va lui arriver quand on agit sur lui avec une force. Donc, quelle est l'impulsion canonique d'un soliton magnétique? Alors, commençons par l'impulsion canonique, c'est avec la somme des impulsions du bain, enfin, de la composante bleue et de la composante rouge. Commençons par le bain. Donc le bain, c'est quelque chose qui s'étend beaucoup et qui, a priori, a un trou, un déficit de densité localement. Donc son impulsion, ça va se calculer de la même façon que ce qu'on avait fait ensemble pour les solitons gris. Et pour les solitons gris, je vous rappelle ce qu'on avait trouvé. On avait trouvé que l'impulsion, c'était la somme de deux contributions. La première, c'était l'impulsion intuitive, si je puis dire, l'impulsion locale, qui était simplement la masse des particules, fois le nombre de particules manquantes dans la déplétion, fois la vitesse. Donc ça, je l'écris sous la forme moins m, la masse d'une particule, fois N2, c'est le nombre de particules manquantes ici, puisque je vous dis, je mets N2 particules ici et je sais que la densité totale doit être constante, donc il manque N2 particules ici, fois la vitesse. Et puis ensuite, j'avais cette impulsion qui était non intuitive, qui était ce contre-courant, backflow en anglais, qui faisait intervenir la phase, la différence de phase du bain entre la gauche ici et puis la droite là. Maintenant, je regarde l'impulsion liée à la composante 2. Ben là, c'est ce qu'on avait fait ensemble pour les solutons brillants, ça devait être le tout premier cours. Là, il n'y a pas de mystère, hein, l'impulsion est purement locale, de toute façon, il n'y a rien, c'est vide à gauche et puis à droite. Donc l'impulsion de la partie 2 ici, c'est P local 2, c'est petit m fois N2 fois V. Et si maintenant je fais la somme des deux, donc dans l'hypothèse où la densité totale ρ1 plus ρ2 est constante, eh bien l'impulsion locale ici et l'impulsion locale se compensent, et tout ce qui reste, eh bien c'est l'impulsion liée au contre-courant. Donc vous voyez l'importance de ne pas l'oublier, le contre-courant, parce que la seule impulsion dans le problème de ces solutons magnétiques, c'est l'impulsion qui est liée au contre-courant, dont je vous rappelle qu'elle est liée à cette différence de phase hein, du bain entre la partie gauche et la partie droite. Donc le P canonique de mon solutant magnétique, c'est le P contre-courant pour la composante 1, donc ça c'était la formule qu'on avait vue ensemble la dernière fois, moins H bar rho 0, delta phi 1, où delta phi 1 c'est phi 1 de plus l'infini, moins phi 1 de moins l'infini. Donc ça nous dit que l'impulsion canonique, en fait, c'est proportionnel à une différence de phase, la différence de phase du bain entre phi 1 plus l'infini et phi 1 moins l'infini. Mais une phase, c'est toujours défini à 2π près. Donc du coup, mon impulsion canonique, elle est définie à un 2π fois h bar rho 0 près. Et ça, ça va jouer un rôle important. L'énergie, maintenant, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, l'énergie, il faut la calculer à partir de la fonctionnelle de Gross-Piasecki qui donne naissance à ces deux équations couplées, là. Donc je vous l'ai réécrite, hein, mais on l'a déjà vu de multiples fois. Il y a une partie d'énergie cinétique qui fait intervenir les dérivés des fonctions d'onde, cette partie d'énergie interaction. Il faut injecter là-dedans donc, l'ansatz que j'ai pris pour ψ1 et ψ2 avec les angles θ et puis petit φ. Là encore, il faut tourner la manivelle un certain nombre de tours. Mais quand on fait le calcul, eh bien, on trouve que l'énergie est reliée à l'impulsion canonique. Donc l'impulsion canonique, j'ai réécrit son expression ici, hein, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, moins h bar rho 0 delta phi 1, et c'est écrit sous cette forme-là. Grand E, c'est une constante fois le cosinus de l'impulsion canonique divisé par h bar rho 0, donc si vous préférez, ce qui vient là-dedans, c'est simplement le moins delta phi 1, hein, plus une autre constante. Alors la première constante alpha, elle est écrite ici, elle fait intervenir l'échelle d'énergie du problème, et puis le nombre de particules grand N2. Mais ce qui est vraiment intéressant là, ce n'est pas les constantes alpha ici et puis la constante que je n'ai même pas écrite là. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie est une fonction périodique de l'impulsion. Hein, c'est un cosinus simplement de l'impulsion. Et puis la vitesse, eh bien, c'est la même chose. Ça va aussi être une fonction périodique puisque la vitesse, vous savez que c'est la dérivée de l'énergie par rapport à l'impulsion. Donc si je dérive une fonction périodique, eh bien, je réobtiens une fonction périodique. Donc ma vitesse... Là, je dérive un cosinus, donc j'obtiens un sinus. Ma vitesse, c'est sinus de P canonique sur h bar rho 0. Donc l'énergie et la vitesse sont des fonctions canoniques de l'impulsion. Voilà, donc ça, c'est le message principal de cette partie. Et maintenant, eh bien, j'ai tout ce qu'il faut pour aborder la dernière partie, qui sont les oscillations de Bloch d'un solitons magnétique. Alors là encore, c'est quelque chose qui a été compris théoriquement il y a longtemps, par Kosevich, le même que l'auteur de l'article de revue que je mentionnais tout à l'heure. Mais, à ma connaissance, ça n'a pas été vu tel quel avec des solitons magnétiques dans les chaînes magnétiques. Et c'est quelque chose donc, qui a été vu récemment dans notre équipe avec des atomes froids. Donc, avant de vous expliquer ces oscillations de Bloch du soliton magnétique, je voudrais vous rappeler ce que sont les oscillations de Bloch « usuelles », entre guillemets. Alors, les oscillations de Bloch usuelles, c'est un phénomène qui est vraiment magnifique, je trouve, un phénomène quantique magnifique, qu'on trouve pour une particule quantique ponctuelle qu'on place dans un potentiel périodique, spatialement périodique. Donc, c'est ce que j'ai représenté ici. Le potentiel spatialement périodique est représenté en bleu ici. Hein, c'est un V de X. J'ai une particule de masse M. La période du potentiel, je la note petit a. Et le spectre de cette particule dans le potentiel périodique est un spectre composé de bandes d'énergie. Alors, je vous rappelle comment est-ce qu'on trouve ces bandes d'énergie. Si je me limite dans un premier temps, à un problème à un puits. C'est-à-dire, je suppose que je mets une barrière très, très forte ici, puis une autre très forte ici, puis une autre très forte ici. Donc, si je suppose que je n'ai pas d'effet tunnel entre les puits, à ce moment-là, eh bien, je peux regarder les niveaux d'énergie de la particule dans un des puits individuels, et là, j'ai des niveaux d'énergie discrets, puisque j'ai une particule qui est confinée. J'aurai les mêmes niveaux dans le puits à gauche, ici, les mêmes niveaux dans le puits à droite, là. Et puis, si maintenant, j'autorise l'effet tunnel, donc j'enlève les barrières, voilà, eh bien, la particule va pouvoir sauter d'un puits à l'autre par effet tunnel. Ça, ça va donc donner naissance à ces bandes d'énergie que je vais numéroter en fonction du niveau duquel elles sont issues, donc n égale 1 pour la bande fondamentale, puis n égale 2, puis n égale 3. Bien, je ne rentre pas trop dans les détails, hein, mais c'est la théorie des bandes habituelle qu'on fait en physique des solides. Les états propres associés à ces bandes d'énergie sont des fonctions de Bloch qui sont repérées par deux indices. Le premier indice n, c'est l'indice de bande, n égale 1, 2, 3. Le deuxième indice q, eh bien, c'est un moment ou un quasi-moment, impulsion, quasi-impulsion. Donc là, c'est un nombre, si vous voulez, puisque je suis à une dimension, mais ce serait un vecteur si j'étais à deux ou trois dimensions. Et ce quasi-moment donc, me sert à repérer mes états propres, mes états de bloc, sachant que les états de bloc se mettent sous cette forme-là. Si nq égale une onde plane, et puissance iqx sur h bar, ou et puissance iq scalaire r sur h bar à plusieurs dimensions, fois une fonction périodique sur le réseau, u indice nq de x. Et donc ce moment doit plutôt être qualifié de quasi-moment, parce qu'il faut faire attention à restreindre son amplitude si on veut éviter les doubles comptages. Dans la situation que j'ai considérée ici, ce quasi-moment q, je peux le choisir dans ce qu'on appelle la première zone de Brillouin, qui est donc un segment de largeur 2pi h bar sur a. A, je vous rappelle, c'est la période du réseau ici. Les bandes d'énergie que j'ai dessinées ici, ben, elles ont comme une structure telle que j'ai dessinée là. Donc, à chaque valeur de n et de q, j'ai une énergie bien déterminée. Et les deux bords de ma zone de Brillouin, c'est-à-dire le moins pi h bar sur a ici et le plus pi h bar sur a ici, doivent être identifiés. Si vous voulez, la structure de la zone de Brillouin, dans ce cas-là, c'est une structure de cercle. Si j'étais à deux dimensions, trois dimensions, ce serait une structure de tore. Les bords de la zone de Brillouin doivent être identifiés l'un avec l'autre. Et ça se comprend assez bien. C'est-à-dire que quand je prends le vecteur, si je prends l'état correspondant au vecteur de bloc ou au nombre au vecteur quasi-moment Q égale plus pi h bar sur A, et puis si je prends celui-ci moins pi h bar sur A, eh bien, en fait, la différence entre les deux états, ça va être e puissance i 2 pi x h bar sur a, qui est une fonction périodique sur le réseau. C'est-à-dire que quand je passe de là à là, je le passe via une fonction périodique sur le réseau que je peux toujours réintégrer dans le unq de x. Donc, pour éviter les doubles comptages, il faut que je fasse attention à ne pas continuer trop cette zone de Brillouin et que je pense bien à identifier donc, ce point-ci et ce point-là. Donc, en toute rigueur, là, j'ai mis une inégalité large à gauche et à droite, mais si je veux être rigoureux, il faut que je mette un strict d'un côté pour justement éviter ces doubles comptages. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est... à ce stade, ce n'est pas encore les oscillations de Bloch, c'est la théorie des bandes. Et les oscillations de Bloch, eh bien, elles arrivent quand j'applique à ma particule une force en plus du potentiel du réseau. En plus du potentiel V de X, j'applique une force que je vais supposer constante dans le temps, uniforme dans l'espace, une force petit f, qui va mettre ma particule en mouvement. C'est-à-dire que si je suppose que je l'ai préparée initialement avec le quasi-moment Q égale 0, cette force va mettre ma particule en mouvement, et l'évolution du quasi-moment, ça découle du théorème de Bloch, hein, qui est basé sur l'invariance par translation du problème, s'écrit sous la forme dq sur dt égale petit f. Donc mon quasi-moment va commencer à défiler, et puis à un moment où il va atteindre le bord de la zone de Brillouin, donc revenir ici, etc. Et si je fais l'hypothèse d'une force qui est suffisamment faible pour que la particule reste en permanence dans la bande n égale 1, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de transition qui fasse passer la particule de la bande n égale 1 à la bande n égale 2, puis n égale 3, etc., le point dangereux, en général, c'est les points où les deux bandes sont les plus proches l'une de l'autre. Donc c'est ici, c'est en plus ou moins pi h bar sur a. Eh bien, si ma force est suffisamment faible, eh bien, je tombe sur un phénomène périodique. Et ça se comprend assez bien, puisque si j'attends un temps T tel que le moment a défilé complètement, donc est allé jusqu'ici, et puis est revenu ici, et est revenu en zéro, donc un temps T égal à 2 pi h bar sur AF, le quasi-moment, il a augmenté de 2 pi h bar sur A, puisque le quasi-moment, c'est F fois T, et donc j'ai parcouru toute la zone de Brillouin. Et si ma particule n'est pas passée dans les bandes supérieures, elle est restée dans la bande inférieure, donc je suis revenu dans le même état quantique, à une phase globale près, mais qui est sans importance ici. Donc, on voit avec ça que le fait que mon énergie en fonction du quasi-moment soit une fonction périodique de ce quasi-moment fait que si le quasi-moment augmente linéairement avec le temps, eh bien, j'ai dans l'espace réel, dans l'espace des x et des vitesses, des positions et des vitesses, j'ai un phénomène périodique et dont la période se trouve très simplement. Voilà. Eh bien, maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que je vais avoir des oscillations de blocs avec les structures magnétiques. Parce que mon énergie a le bon goût d'être également une fonction périodique de l'impulsion. Donc, l'expérience à faire, c'est la suivante. On prend notre soliton magnétique, on applique une force sur une partie du système. En l'occurrence, on va appliquer une force sur les particules de type 2, ici. Et je vais supposer que cette force est suffisamment faible pour ne pas casser le soliton. Pour les oscillations de blocs traditionnelles, je vous dis qu'il faut qu'elles soient faibles pour ne pas changer de bande. Là, il n'y a pas de bande, mais en revanche, il ne s'agit pas d'appliquer une force qui va accélérer très vite, avec une très forte accélération, les particules de type 2, en laissant le trou des particules 1 sur place. Là, évidemment, ce ne sera pas très intéressant, j'aurai cassé mon soliton. Donc, ce qu'il faut, c'est garder son intégrité au soliton. En pratique, ce que ça veut dire, c'est que le travail de la force sur l'extension du soliton, c'est-à-dire une énergie, doit être petite devant toutes les énergies caractéristiques du problème. Et ça, c'est faisable en pratique. Et à ce moment-là, eh bien, même schéma que ce qu'on a vu pour les oscillations de blocs traditionnelles, l'impulsion du soliton va augmenter linéairement avec le temps, dp sur dt égale f. Donc, comme l'énergie et la vitesse sont des fonctions périodiques de p, je vous avais écrit la forme ici, eh bien, quand p aura augmenté de h bar rho 0, j'aurais dû mettre un 2pi h bar rho 0 là, oh là là, 2pi h bar rho 0. Quand p aura augmenté de 2pi h bar rho 0, eh bien l'argument du cosinus et du sinus aura augmenté de 2pi, donc j'aurai mon mouvement, je serai revenu à l'état initial. Donc j'ai bien un mouvement oscillant, et la période de ce mouvement oscillant, elle est écrite ici, c'est donc 2pi h bar rho 0 sur grand F, c'est le temps qu'il faut pour que l'impulsion augmente de 2pi h bar rho 0, et c'est intéressant de comparer cette période d'oscillation de bloc pour le soliton magnétique à celui pour l'oscillation de bloc usuelle. Vous voyez que ce qu'il faut faire, c'est remplacer la force sur une particule petit f, ici, par la force sur mes grand N2 particules, grand F. Et par ailleurs, ce qui jouait le rôle de petit a, plus précisément de 1 sur a, a étant la période du réseau tout à l'heure, eh bien ça devient la densité de particules dans le bain, rho 0. Voilà, donc c'est deux formules qui sont assez voisines l'une de l'autre, et on voit comment substituer les différents ingrédients pour passer du cas usuel au cas magnétique. Alors, cette chose-là, on peut la voir expérimentalement. C'est ce qu'on a fait donc, dans une expérience récente au laboratoire, ce qui est en train d'être publié. Donc, je vous ai expliqué comment est-ce qu'on fabriquait un soliton magnétique au repos, tout à l'heure, avec ce transfert sélectif d'atomes du niveau sous-niveau Zeeman M égale moins 1 vers le sous-niveau Zeeman M égale plus 1. Et ensuite, on va appliquer une force sur les atomes M égale plus 1. Plus précisément, on va appliquer une force différentielle, c'est-à-dire que les atomes plus 1 et les atomes moins 1 ne verront pas la même force, en mettant un gradient de champ magnétique. La réponse des plus 1 et des moins 1 est opposée. Donc on applique une force différentielle qui va permettre de mettre le soliton en mouvement par rapport au bain, enfin l'espèce rouge en mouvement par rapport au bain. Et l'expérience, elle confirme ce qu'on attend. C'est-à-dire que effectivement, cette petite pastille rouge ici oscille dans le temps. Ici, je vous ai mis son mouvement delta x compté en micro en fonction du temps. Donc là, vous avez le temps en secondes. Ça, c'est 200 millisecondes, 400 millisecondes. L'extension du mouvement, c'est quelques micromètres, 4-5 micromètres. C'est très petit devant la longueur du segment qui valait 60 microns. Donc, le fait que ça oscille, c'est pas parce que le soliton va toucher les bords et rebondit sur le bord. C'est vraiment un mouvement local au voisinage du centre du segment. La période qu'on trouve, elle est en bon accord avec la prédiction que j'ai écrite à la diapositive précédente. Et puis, si on se demande donc quel est le mouvement du soliton, eh bien le mouvement du soliton, donc je vous ai dit, je suis dans une situation où N2 est fixé, donc dans ce plan V et oméga, il faut que je reste sur mon ellipse là. Et plus précisément, si vous analysez ce qui se passe quand l'impulsion croît linéairement avec le temps, ce que vous trouvez, c'est que le mouvement du soliton consiste à parcourir, pour une force positive, l'ellipse dans ce sens direct, sens trigonométrique. Donc en particulier, je pars du point A, c'est celui que je vous avais préparé tout à l'heure. Donc je rappelle, la solution A, c'était une solution de faible déplétion avec une phase du bain uniforme. Eh bien, au bout d'une demi-période, donc le soliton commence par être accéléré, puis ensuite sa vitesse diminue, et puis il redevient au repos. Donc là, c'est le premier point tournant, c'est ce qui se produit après 100 millisecondes. Et à ce stade-là, je dois être arrivé au point B. Et puis ensuite, au bout de 200 millisecondes, je suis revenu au point A, etc. Mais le point B, je vous rappelle que lui, c'est une solution différente de A. C'est une solution où le bain est une déplétion totale, et un saut de phase de pi entre la gauche et la droite. Donc ça, on s'est demandé si on pouvait le voir. Et pour le voir, eh bien, on a fait l'expérience qui est représentée ici. On a réalisé en fait un double segment. Le segment de droite, on a bien mis un soliton. Donc on a fait basculer quelques atomes de l'état, enfin quelques centaines d'atomes d'état moins 1 vers l'état plus 1. Le segment de gauche, en revanche, on a laissé le bain tel quel. Donc le segment de gauche, lui, il a une phase uniforme. Le segment de droite, il a cette phase qui peut varier quand le soliton bouge, comme ça. Et on va mesurer la phase du segment de droite en faisant une expérience d'interférence entre les deux segments. C'est-à-dire qu'on va relâcher le confinement des deux segments, les laisser se recouvrir, et on va mesurer l'interférence entre les deux. Le segment de gauche servant de référence de phase. Donc à l'instant t égale 0, on trouve des franges qui sont bien droites. Donc des franges bien droites, ça nous dit que la phase du bain est effectivement uniforme, c'est ce qu'on attend pour la solution de type A. Mais après une demi-période, c'est-à-dire quand on est arrivé au point B, vous voyez effectivement des franges d'interférence qui, au niveau du soliton, présentent une dislocation. Entre le dessus et le dessous, les franges se décalent d'un demi-interfrange. Et ça correspond au saut de phase du bain de pi, qui est ce qu'on attend pour cette solution de type B. Puis après une période entière, donc quand on est revenu ici, eh bien, on retrouve des lignes droites et trois demi-périodes, donc on est là et on retrouve de nouveau un saut de phase de pi. Donc les choses sont bien sous contrôle. Voilà. Donc la dernière chose que j'aimerais discuter, c'est la période d'oscillation du soliton. Donc je vous l'ai réécrite ici, vous l'avez vu tout à l'heure, 2 pi h bar rho 0 sur grand F, et j'aimerais faire juste deux commentaires à propos de cette période. La première, c'est que ce qui intervient ici, c'est grand F, c'est donc N2 fois la force agissant sur une particule. Donc, ce n'est pas un phénomène à une particule qu'on est en train de regarder. Ce que je suis en train de voir, ce n'est pas la superposition indépendante du mouvement de mes N2 particules. Non, si je double le nombre de particules, je vais diviser la période par deux. Donc c'est vraiment un phénomène collectif des N2 particules qu'on regarde, ce n'est pas un phénomène de grand N2 particules indépendantes. C'est une réponse collective. La deuxième chose, c'est que la constante de Planck intervient directement là-dedans. Si je mesure correctement mes densités, je mesure correctement mes forces, et ça c'est facile à faire, eh bien c'est un moyen de mesurer H-bar. Donc c'est un phénomène qui est intrinsèquement quantique, ce qu'on voit là. C'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment quantique là-dedans. Alors ça, il y a plusieurs réponses possibles. Moi, je vais vous donner celle que j'aime bien, qui est de dire que ce qui est quantique là-dedans, en fait, c'est le bain. Le bain unidimensionnel, en fait, il a une relation de dispersion intrinsèquement qui est périodique. Ça, c'est quelque chose qui a été compris il y a longtemps. J'ai donné dans les notes un argument qui est dû à Félix Bloch, qui date des années 70, que je trouve très élégant. Haldane aussi avait compris ça d'une manière différente un peu après. Mais quand vous prenez un système unidimensionnel, eh bien, un bain comme ça, sa relation de dispersion, pour l'état fondamental, l'énergie de l'état fondamental varie périodiquement avec P, la période étant ce 2π h bar rho 0. Donc finalement, ce qu'on teste avec ça, c'est le soliton est un moyen d'injecter de l'impulsion dans le système et donc de voir que l'énergie de l'état fondamental, admettant qu'on reste bien dans l'état fondamental, comment est-ce que l'énergie fondamentale répond à un ajout d'impulsion ? Et le fait qu'on voit quelque chose de périodique, eh bien, ça prouve qu'effectivement, l'énergie du fondamental du bain est bien périodique en P. Et je termine avec une autre interprétation possible de ce même phénomène, qui est mise en avant par l'article que je citais déjà tout à l'heure de Brézolin et Hall, qui est une autre interprétation de ce phénomène, qu'on peut voir comme un effet Josephson. C'est-à-dire que les atomes rouges ici, on peut voir ça comme une petite barrière isolante plongée entre deux superfluides, c'est-à-dire le bain de gauche et puis le bain de droite, ou plutôt le bain supérieur et le bain inférieur, là, avec l'orientation que j'ai prise. Et cette jonction Josephson est mobile. Donc ce qu'on voit là, eh bien, c'est une sorte d'effet Josephson alternatif. Hein. On voit une oscillation de la position de la jonction qui est reliée à la différence de phase du bain. Voilà. C'est une interprétation qui est toute complètement légitime. Voilà. J'en suis arrivé à la fin de ce cours et donc de cette série de cours. Donc, je voudrais redire ce que je disais en toute introduction, hein, c'est que c'est un cours dans lequel j'ai fait des choix drastiques. La physique des solitons est une physique extrêmement riche, qui s'étale sur près de 2 siècles maintenant, et donc il n'était absolument pas question de couvrir toute cette physique des solitons, ni même de couvrir toute la physique des solitons vue avec les gaz d'atomes froids. Donc j'ai fait des choix pour essayer de donner quelques coups de projecteur sur différents problèmes. Donc ça m'a semblé important de décrire la méthode IST, l'inversion des données de diffusion. Donc ça, on l'a fait sur le cas des solitons brillants. Ça m'a semblé intéressant de discuter l'impulsion d'un soliton. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière sur les solitons gris. Là, j'ai parlé de ces solitons magnétiques parce que je trouvais que c'était joli de parler d'énergie périodique en impulsion. Mais j'aurais pu faire beaucoup d'autres choix. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux faits sur les solitons, les gaps solitons, les solitons qui se produisent dans des gaps. Jacqueline Dock en a dit un mot la semaine dernière. Il y a également des solitons à plus que 2 composantes où il y a eu une physique très riche. Donc, tout ce que je peux dire, c'est vous encourager à aller lire cette très vaste littérature. Voilà, donc je vais m'arrêter ici et je vous rappelle, donc, dans quelques minutes, le séminaire de Thierry Jamarqui et cet après-midi, l'atelier sur la topologie. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.